Nous étudions le livre de Genèse, le livre des origines, et nous disons que si nous voulons comprendre notre monde, nous devons remonter aux origines, comprendre les origines. Et dans ce chapitre, entre autres, nous avons en quelque sorte les origines du peuple juif et le peuple arabe aussi, puisque Dieu évoque les multitudes qui vont naître et d'Ismaël et d'Isaac. Alors, c'est sûr, difficile de comprendre notre monde aujourd'hui. Même les situations géopolitiques, difficile de comprendre notre monde aujourd'hui si on ne s'intéresse pas, un tant soit peu, à l'origine de ces peuples, le peuple arabe, le peuple juif. Et ici, c'est des moments clés dans l'origine de ces peuples, aussi avec l'institution de la circoncision, cette marque qui va identifier, qui va démarquer le peuple juif aussi pendant toute leur histoire. Mais de savoir, par exemple, que les deux, Ismaël et Isaac, ont été tous les deux nommés par Dieu. Ismaël, ça veut dire Dieu entend. Et Isaac, ça veut dire rire. Les noms ici sont riches de sens. Et les deux ont été nommés par Dieu lui-même. Et les deux sont issus d'un même père. Et les deux, pour les deux, Dieu prononce une bénédiction. Je vais bénir Ismaël, je vais bénir aussi Isaac. Leurs histoires vont être différentes, mais il y a une bénédiction de Dieu qui repose sur les deux. Donc rien que de savoir ces choses, par exemple, ça pourrait changer certaines mentalités quand on pense au peuple arabe et au peuple juif. Donc vous voyez l'intérêt de revenir aux origines et ça pourrait apporter aussi des réflexions et des solutions dans notre monde. Mais ce matin, nous voulons personnaliser un peu plus ce texte. Et c'est aussi dans ce chapitre que nous voyons l'origine d'Abraham. En tout cas, le mot Abraham, le nom Abraham, c'est ici. Tout le monde connaît Abraham. Et c'est dans ce chapitre qu'il reçoit ce nom. En verset 5, Dieu renomme Abraham et le renomme Abraham. Non seulement Abraham, mais sa femme aussi, Sarai, est renommée Sarah. Donc, dans ce chapitre, vous avez le renommé de Dieu et la renommée de Dieu, Abraham et Sarah. Dans les deux cas, on va dire, c'est un petit syllabe qui change, mais il y a une richesse de sens dans ce changement de nom. Abraham, ça veut dire père élevé, et maintenant il va devenir père d'une multitude. Et nous allons voir que ça représente toute une démarcation par rapport à son propre passé, son propre père. Le changement semble peut-être encore plus subtil pour Sarai, puisque c'est une lettre éventuellement qui change. Et les deux ont un peu le même sens de princesse. Sarah veut dire princesse. Sarai veut dire ma princesse. On imagine son père l'appeler comme ça. Et maintenant, c'est plus ma princesse, c'est princesse au sens général, au sens universel, au sens pur. Et c'est pas juste une petite différence, c'est une grande différence. Elle devient princesse à part entière. Le mot est fort, voulant presque dire une reine, puisque et pour Abraham et pour Sarah, Dieu indique juste après que des rois vont sortir vont naître de vous. Donc les enfants d'une princesse, quand une princesse grandit, qu'elle a des enfants, elle-même devient reine. Et l'enfant d'une reine, c'est un roi. Et voilà tout le sens que Dieu donne à ce mot. Donc, comme nous allons voir ce matin, c'est peut-être un petit syllabe qui change sur le papier, mais ce que Dieu est en train de leur donner à Abraham et Sarah, c'est une toute nouvelle identité, une nouvelle dignité. Il les élève grandement en dignité. Pour qu'ils deviennent en quelque sorte roi et reine, qu'ils deviennent père d'une multitude et une princesse. Ils ont un nouveau statut, ils ont une nouvelle dignité. Et c'est très fort parce que c'est même un thème dans la Bible. Un grand nombre de personnages dans la Bible ont été renommés par Dieu à un moment tournant dans leur vie pour indiquer qu'ils entrent dans une nouvelle dimension d'une relation avec Dieu, une nouvelle vocation, une nouvelle identité que Dieu leur donne. Et j'ai fait un peu la liste, mais il y a Abraham et Sarah, c'est un peu les premiers grands changements de nom. Il y avait Ève, même Ève, c'était un deuxième nom, Ève. Il y a Jacob, qui lui aussi, son nom va être changé en Israël, cela vous connaissez bien. Josué, que nous étudions en mardi soir les cellules, là encore c'est subtil, mais avant il s'appelait Osée, c'est Moïse qui va changer son nom, Josué. Et puis des deux grands personnages du Nouveau Testament, Pierre, l'apôtre Pierre, vous le connaissez, c'était Céphas, et Jésus, tu seras nommé Pierre. Et même le changement de Saul et Paul, ça passe comme ça, ça passe presque inaperçu, mais on voit qu'il y a aussi un changement dans sa vie. Le Saul, peut-être rappelle tout son passé, et puis Paul, qui signifie petit, il va être un grand apôtre qui porte ce nom presque ironique du petit. Et donc, les grands personnages de la Bible, finalement, ils vivent tous un changement de nom. Certainement, cela indique quelque chose à nous, et c'est ce que nous voulons creuser ce matin. Je pense qu'on peut dire que Dieu offre la possibilité d'avoir une nouvelle identité, une nouvelle dignité lorsque nous entrons dans une relation forte avec lui. Et nous allons découvrir cette bénédiction suprême ce matin, en quelque sorte, d'être nommé par Dieu lui-même, d'être nommé par Dieu. Il n'y a rien de plus exaltant, rien de plus merveilleux que quelqu'un d'important t'appelle, te connaît par ton nom. Et c'est ce que nous découvrons à travers les Écritures et ici dans l'histoire d'Abraham et Sarah. Alors, on va réfléchir un peu à cette notion de nom et d'identité. Qu'est-ce qu'un nom? Qui peut nous nommer? Et comment Dieu, lui, il nous nomme, il nous appelle. Qu'est-ce qu'un nom, tout d'abord? Vous avez tous un nom, un prénom. Un nom, c'est pour désigner une personne. Mais en tant que parent, vous avez déjà peut-être réfléchi au prénom de vos enfants. Vous avez été appelé à donner un nom. Et ce n'est pas juste 5 ou 6 ou 7 lettres que vous voulez aligner. Il y a peut-être une sonorité, une jolie sonorité que vous cherchez. Mais un nom, c'est pour désigner une personne. Mais aussi, c'est pour, quelque part, vous voulez transmettre une valeur à cette personne. Vous voulez transmettre une bénédiction à cette personne. Donc, vous choisissez des noms ou des prénoms que vous espérez reflètent leur caractère ou leur devenir ou leur avenir. Et un nom comme Sarah, princesse, ma princesse, on peut la comprendre. Mais à cette époque, c'était encore plus fort, la notion de nommer des personnes, c'était encore plus fort, et notamment dans le contexte de ce livre de Genèse, où on est des origines et beaucoup de choses vont recevoir un nom pour la première fois. L'idée de nommer quelqu'un ou quelque chose est très fort. On a vu ça dans les premiers chapitres, la manière que Dieu nomme donc Adam et puis sa femme, Isha. Et puis, comment Dieu confie à Adam le fait de nommer les animaux. À l'époque, donner un nom, c'était montrer une certaine autorité, mais c'était aussi transmettre une bénédiction sur la personne. Transmettre une vocation, transmettre une fonction. Voilà ce que nous trouvons dans cette idée de nommer. Qu'est-ce qu'un nom? Et là, je dirais, on est dans ce que nous, notre époque, nous reconnaissons bien cette notion, c'est la notion d'identité. Quelle est une identité, notre identité? Et je dirais, en quelque sorte, c'est la question qui préoccupe plus que toute autre notre génération, cette construction identitaire, comme nous appelons. Je suis sûr qu'il y avait une question sur le bac de cette année, au sujet de l'identité. C'est ce genre de thème qui revient souvent à notre époque et dans notre culture. C'est quoi une identité? À l'époque, Blaise Pascal pose ainsi la question, qu'est-ce que le moi? Qu'est-ce que le moi? Et ça semble simple à répondre, mais quand on creuse, et quand on est philosophe et les psychologues creusent un peu, c'est tout un champ d'études. Qu'est-ce que le moi? Et on revient à ce qu'un nom. Un nom cherche à définir la personne, à désigner la personne, mais un nom cherche aussi à donner une valeur à la personne. Et je pense que quand on parle d'identité de nos jours, c'est ce que nous avons en tête. Comment décrire la personne? Qui est cette personne? Qui est le moi? Mais aussi, où est-ce que je trouve ma valeur? Où est-ce que je trouve mon importance? C'est ça, une identité. On peut dire comme ça, notre identité, c'est l'essentiel de ce que nous sommes. C'est l'essentiel, le cœur qui crée notre personne à travers les différentes casquettes qu'on peut porter dans la vie, à travers les différentes évolutions de la vie, à travers le temps. Il y a quelque chose qui est vous-même dans toutes les circonstances. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez être une employée d'Airbus, vous pouvez être une mère de famille, vous pouvez être une fan d'escalade, vous pouvez aimer partir en vacances en Bretagne. Toutes ces choses vont peut-être contribuer à votre identité, mais vous restez la même personne que vous seriez au bureau ou à la maison ou en vacances. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette personne? C'est quoi cette identité? C'est ce que nous cherchons c'est ça dont on parle quand on parle d'identité. La personne que vous êtes vraiment. Et notre identité, c'est aussi ce qui nous donne un sentiment d'approbation, un sentiment de valeur, un sentiment de dignité. Par exemple, personne n'appelle leur enfant « vaut rien ». On appelle nos enfants avec parfois des noms qui ont des sens où nous voulons transmettre une valeur à la personne. Alors, à l'époque, qu'est-ce qui définissait une identité, qu'est-ce qui donnait une valeur, une dignité à la personne? Bah, un peu dans l'histoire d'Abraham et Sarah, c'est assez fort et flagrant dans la culture autour, c'est le nombre d'enfants, c'était la famille, c'était maintenir le patriarcat et pouvoir ainsi se définir et se valoriser auprès de la société autour. Et c'est ça l'ironie de la situation. Jusqu'à 99 ans, Abraham porte le nom père, père élevé, et il n'est pas père, il n'est pas vraiment père. Bon, là, il vient d'avoir Ismaël, mais on sait encore ce n'est pas de son épouse. Et encore plus fort pour Sarai, comment l'entourage aurait désigné Sarai? On imagine qu'on est à un repas de quartier. Et que la famille Abraham et Sarai apportent des brochettes du fromage de chèvre, je sais pas quoi. Et une personne dit, mais qui a fait ces brochettes? Comme ça nous arrive au repas fraternel, mais qui a fait ce plat? Et puis, l'autre répond, mais c'est celle-là elle est habillée en rouge, c'est celle qui n'a pas d'enfant. Tout le monde aurait appelé Sarai comme ça, c'est celle qui n'a pas d'enfant, souvent, on retient le trait le plus marquant pour désigner quelqu'un. Si vous ne connaissez pas, si vous cherchez le nom, c'est celui qui est grand, ou c'est celui qui est brun, ou si c'est celui qui vient des... celui qui nous saute aux yeux. Et pour Sarai, vous imaginez que toute sa vie, c'est celle qui n'a pas d'enfant, c'est celle qui n'a pas d'enfant, c'est celle qui m'a... Ça, c'était l'identité que la société autour d'elle voulait lui donner. Et à cette époque, c'était terrible, puisque c'était là où beaucoup trouvaient leur valeur, leur dignité. Alors notre société fonctionne moins avec le nombre d'enfants, bien sûr, mais nous aussi, nous avons nos manières de décrire une personne, de donner une identité. Notre société nous dit qu'il faut regarder le métier, par exemple, ou un talent. C'est ça qui va être, au fond, votre identité, qui va vous valoriser. De plus en plus, on dit que son identité est très, très liée à son orientation sexuelle. Par exemple, et encore, on revient à l'idée qu'un nom, une identité est censée transmettre une bénédiction. Et aujourd'hui, on veut pouvoir bénir un certain style de vie, certaines orientations, comme on dit, sexuelles. Et donc, on valorise ça, on met ça en avant comme l'identité de base, comme le cœur, l'essentiel de ce que nous sommes. Ce qui... Je pense qu'on conduit notre société à des crises d'identité parce que Dieu n'a jamais prévu ça comme l'essentiel de notre identité. Voilà ce qu'est un nom, si on essaie de comprendre, en tout cas dans le contexte du livre de Genèse, le poids derrière le nom qu'on pouvait porter. Aujourd'hui, on parlera surtout d'une identité. Et ce que Dieu va faire maintenant... Et dans la vie d'Abraham et Sarah, c'est de leur donner une nouvelle identité. Les nouveaux noms qu'ils vont choisir ont un rapport avec leur passé, avec leur culture, et maintenant il va les changer et donner une nouvelle identité. Donc ma prochaine question, c'est qui peut nous nommer finalement? Qui peut nous nommer? En général, ce sont nos parents qui nous donnent, nos noms, nos prénoms. Les parents choisissent les noms pour les enfants. Je connais personne ici qui s'est choisi son propre nom. C'est difficile. Et en général, les parents émettent encore un souhait, un désir pour leur enfant avec le nom qu'ils donnent. À cette époque, c'était encore plus prononcé. Hein, vous voyez, le choix des noms était déjà riche de sens. Ça pouvait être des phrases entières. Aujourd'hui, on cherche des noms qui symbolisent ou qui évoquent certaines choses. Mais ici, c'était clair et plus fort, le choix des noms. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les parents étaient vraiment, tout puissants. Et eux, ils décidaient beaucoup de choses pour leurs enfants, pour le devenir des enfants. Qu'est-ce qu'on allait devenir dans la vie, avec qui on allait marier? C'était le père, c'était le patriarche qui décidait ça. Et encore l'idée de nommer, comme nous avons dit à cette époque, c'était montrer tout le contrôle, toute l'autorité sur la personne. Et là, je suis reconnaissant à Gilbert, notre maçon, notre prof d'hébreu, pour quelques observations clés, puisqu'il a étudié ça dans son mémoire, notamment un peu la vie d'Abraham. Mais ici, il faut se rappeler que Sarah et Abraham partagent le même père. Il s'appelle Terak, et c'est pas la même mère, donc c'est sa femme, c'est sa demi-sœur. Plus tard, il va jouer sur cette nuance pour échapper à quelques soucis quand il est en exil, en disant « ma femme, c'est ma sœur ». Donc, c'était pas tout à fait un mensonge, mais il partage le même père. Donc, Abraham et Sarai, tous les deux, ont été nommés par Terak, nous le savons. Et nous voyons que dans les noms qu'il donne à ses enfants, il a des projets pour eux. Terak, il est patriarche et il veut transmettre, donc lui, il se voit déjà un père élevé et il veut pouvoir voir son fils un jour devenir un père élevé et propager le patriarcat, le patrimoine de la famille de manière honorable et grande. Et pour ça, il a une fille qui va appeler ma princesse, et cette princesse, c'est lui qui donne Sarai, Abraham, puisqu'à l'époque, les parents avaient tout leur mot à dire dans les mariages. Donc, on voit que Terak veut un peu garder le contrôle et gérer tout ça, réussir à faire grandir son patriarcat, avoir un père élevé, le reflet certainement de l'identité que lui-même y cherchait, et jusqu'à donner sa fille en mariage à son fils. Alors, c'est peut-être pas encore l'inceste comme nous le connaissons, mais déjà dans la loi de Moïse, cette pratique va être interdite et on n'épouse pas même sa demi-sœur. Donc, la démarche de Terak, on sait que lui-même a été influencé plutôt, il n'a pas eu toute la révélation de Dieu, et il est plutôt influencé par les pratiques païennes, les pratiques idolâtres, et il va vouloir propager ses valeurs. Donc, dans les noms qu'il donne à ses enfants, il y a le reflet de tout ça. Alors, notre société a un peu basculé, et c'est vrai que nous disons qu'il ne faut plus subir ces pressions très lourdes de la part des parents ou du patriarcat qui dicte tout ce que nous devons faire, qui dit qui nous devons marier, ce que nous devons devenir dans la vie. Et aujourd'hui, en tout cas en Occident, on est beaucoup moins attaché aux traditions familiales et tout l'héritage à respecter, à garder. Nous, c'est un peu un autre discours. C'est à vous-même de vous nommer, c'est à vous-même de vous créer, c'est à vous-même de vous donner une identité. Et c'est ça le discours que nous entendons un peu partout. Écoutez votre cœur, suivez votre cœur, devenez vos rêves, épousez qui vous voulez ou pas, faites le métier que vous voulez ou pas. En tout cas, c'est un peu l'appel, c'est vous devez vous-même vous nommer. N'écoutez pas forcément vos parents. N'écoutez pas les contraintes qu'une société peut porter sur vous. Soyez libérés de tout ça, délivrés de tout ça. Donc, il y a une voie où c'est les traditions, la famille qui impose une identité. Il y a notre société contemporaine où c'est à soi-même de se créer une identité. Et l'offre de Dieu, ou le message de la Bible, va dire que ni l'un ni l'autre sont vraiment des démarches à suivre, ne peuvent vraiment apporter l'identité que nous cherchons tous. On a déjà vu que Terak, finalement, est peut-être animé par une démarche plutôt personnelle, égoïste, pour la pour la manière qu'il a géré ses propres enfants. Et on comprend qu'il y a des gens qui ont voulu se libérer de ça. Donc tout n'est pas mauvais dans le discours moderne qui dit suivez vos rêves, suivez vos envies. Mais la question que je vous soumets, c'est que s'il faut se nommer soi-même, s'il faut simplement écouter son cœur et suivre tous nos rêves, est-ce que ça va nous toujours mener au bon endroit? Est-ce que ça va toujours réussir? Est-ce que vos envies, vos pulsions, vos désirs, est-ce qu'ils sont infaillibles? Ne sommes-nous pas à reconnaître nous-mêmes que simplement suivre tous mes rêves, si je devais suivre tous mes rêves, parfois ça marcherait pas, ça me conduirait dans des soucis. Est-ce qu'il vous arrive de vous tromper parfois? Et si vous arrive de vous tromper, est-ce que vous êtes bien positionné pour vous donner votre propre identité? Est-ce qu'il vous arrive de changer d'avis parfois? Et là, on revient, un bébé n'est pas apte lui-même à se nommer. Il n'a pas l'autorité, il n'a pas la maturité, il n'a pas la capacité de se nommer, de se donner une identité. Et tels nous sommes aussi, nous croyons être des créatures de Dieu. Et il n'y a que Dieu lui-même, notre créateur, qui peut nous donner l'identité que nous cherchons. Et c'est comme ça que Dieu aborde Abraham, le premier verset. Il dit à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Dans un commentaire, « Marche devant moi, marche devant ma face », c'est un peu l'idée, « cherche ton approbation en moi, cherche le regard favorable qui vient de moi, marche devant ma face. » Et dans la Bible, la face de Dieu, c'est toute sa faveur, son approbation qui est posée sur quelqu'un. Et Dieu invite Abraham à trouver le regard favorable en Dieu, pas forcément dans son père, qui voulait qu'il devienne lui un père élevé, un patriarcat élevé, mais qui marche devant Dieu. Et finalement, nous marchons tous devant les yeux de quelqu'un ou de quelque chose. Nous marchons tous devant les yeux, devant la face de quelqu'un auprès de qui nous cherchons l'approbation, le regard favorable. C'est peut-être un parent, comme dans beaucoup de sociétés, ou c'est peut-être des copains, ou c'est peut-être les réseaux sociaux, mais nous marchons tous devant la face de quelqu'un, et ces personnes, ces influences, nous disent ce que c'est d'être intègre, de réussir une identité, et nous les écoutons. Mais Dieu est en train de dire à Abraham, marche devant moi, c'est moi le Tout-Puissant. C'est même pas ton père ou tes traditions du passé qui sont tout-puissantes, c'est moi qui suis le Dieu tout-puissant. Donc vous voyez, nous avons besoin que Dieu nous nomme, nous avons besoin que Dieu nous appelle, nous avons besoin que Dieu nous donne notre identité. Et c'est ça l'offre de la Bible, c'est ça l'offre de grâce que Dieu fait. Et il le fait ici avec Abraham et Sarah. Et il veut le faire pour chacun de nous. En changeant le nom, Père élevé, qui a un rapport avec peut-être les envies, les souhaits, les projets que la société ou que les familles avaient, que sa famille avait pour Abraham, il change le nom et tu vas devenir une père d'une multitude de nations. Maintenant, c'est moi qui va te donner ces multitudes et des rois vont venir de toi. Donc c'est ta dignité, ton identité vient de mon projet pour toi, pas de ce monde. Et pour Sarah, c'est pas pareil. T'es plus juste la princesse de ton père. T'es une princesse à part entière. Et ton identité ne vient pas juste des attentes que la société pourrait avoir pour toi d'avoir beaucoup d'enfants. Mais c'est moi qui va t'élever et tu verras que tu deviendras une reine en quelque sorte. Et je vais t'utiliser dans mes plans et dans mes projets. Et pour nous tous, si nous entrons dans les projets, les plans de Dieu, si nous comprenons ce qu'il veut pour nous et que nous cherchons notre identité auprès de lui, c'est ça la vraie liberté, c'est ça le vrai bonheur. Et enfin, comment Dieu nous nomme? Comment Dieu nous nomme? Comme nous avons vu, il annonce à Abraham et à Sarah qu'une multitude va descendre d'eux et que dans cette multitude, il y aurait des rois qui vont naître. Notamment, lorsqu'il dit ça à Sarah, ton nom sera plus Sarai, son nom sera Sarah, je la bénirai, verset 16, et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. quelle est la promesse que Dieu fait à Abraham et Sarah ici? Ils sont sans enfants jusqu'à là, mais Dieu promet une descendance. Et une descendance qui va se multiplier. Ça, c'est, il répète ça souvent, je te rendrai féconde, je te multiplierai. Alors, qui sont les descendants d'Abraham? Eh bien, on en parle en plusieurs sens, je pense. Les descendants d'Abraham, c'est d'abord tous les descendants physiques qu'il avait. Isaac et tous ses enfants, Ismaël et tous ses enfants, même plus tard, Abraham avait une autre épouse après la mort de Sarai, et il a eu encore des enfants, donc, et ses enfants sont devenus aussi des tribus, des peuples. Donc, quand on parle des multitudes, c'est les descendants, tous les descendants, le peuple sémite, mais aussi quand on parle dans la Bible, quand on parle de descendance d'Abraham, on parle d'une famille spéciale, la famille juive, le peuple qui va entrer en alliance avec Dieu, notamment par la circoncision, et qui va suivre les lois de Dieu. Et donc, souvent, quand on parle des descendants d'Abraham, les enfants d'Abraham, on parle du peuple juif. Mais il y a encore un autre sens dans la Bible où les descendants, la descendance d'Abraham, c'est, parle de cette lignée messianique, notamment une personne, un roi en particulier, Dieu, par la circoncision et par la loi de Moïse et par d'autres choses, a pu préserver son peuple juif à travers l'histoire, dans le but spécial qu'il mette au monde le Messie. Et qu'un jour, en passant par le roi David, le roi Salomon, de plusieurs rois, un jour vienne le vrai roi, le roi par excellence, Jésus-Christ, qui lui est venu pour nous sauver et apporter le salut au monde. Et donc la descendance d'Abraham, dans un autre sens, c'est ce Jésus, c'est ce roi. Sarai est reine et princesse par rapport à lui, dans un sens. Bien, il y a encore un sens quand on parle de la descendance, la multitude d'Abraham, c'est tous les croyants. Nous réunis ce matin, ceux qui placent leur confiance dans le Fils promis, dans le Roi promis, dans la descendance d'Abraham qui est Jésus, ceux qui placent leur confiance pour le salut, pour le pardon des péchés en ce Jésus, eux aussi sont qualifiés comme descendants d'Abraham et héritiers des promesses et des bénédictions que Dieu prononce ici et tout au long du livre de Genèse qui vont suivre dans toute une histoire. Et le Nouveau Testament est assez clair, même si vous êtes même des incirconcis, des non-juifs, ils sont descendants d'Abraham dans la mesure que eux ils entrent dans la famille d'Abraham par la foi en trouvant leur salut auprès du roi, du Fils promis. Tout ça pour dire qu'il y a plusieurs sens à cette descendance, mais ça veut dire que nous sommes, nous, les croyants, nous sommes appelés les fils d'Abraham, nous sommes appelés la descendance. Et donc il y a un sens où nous-mêmes, nous sommes Dieu nous voit, Dieu nous appelle, Dieu nous nomme des rois et des princes et des princesses qui descendent d'Abraham, puisque il nous inclut dans sa famille et c'est pour régner avec lui. Et il suffit de regarder un peu dans le Nouveau Testament tous les titres, tous les noms que Dieu donne à son peuple, à ses rachetés. Et un des plus précieux, c'est ses enfants. Ils sont ses enfants. Et puis, et les enfants du roi universel, le grand roi, eh bien, ce sont aussi des princes, des princesses, des rois et des reines. Que le roi de l'univers nous appelle et nous nomme ses enfants, c'est royal, c'est merveilleux, c'est une dignité, une identité qui dépasse toute attente. Jésus a dit une autre fois en parlant de l'image du berger et brebis, je les appelle par leur nom. Hein, j'ai d'autres brebis, pas que la descendance d'Abraham, mais j'ai d'autres brebis et je les rassemble et tel un berger qui connaît les noms, qui appelle les noms de ses enfants, c'est ainsi que Dieu nous voit. Donc nous avons quelque chose de précieux ici ce matin, d'être nommé, d'être appelé par Dieu lui-même, comme il a fait pour Abraham et Sarai. Le passé, là où nous cherchons notre identité selon les dictées de ce monde, Dieu dit non, je vais changer ça. Et maintenant, tu vas avoir une nouvelle dignité, une nouvelle identité. Et maintenant, je termine avec cette pensée, c'est que maintenant notre identité de base, nous avons dit qu'une identité, ce que nous sommes à travers les changements, les évolutions, les différentes tâches ou vocations qu'on peut avoir, l'essentiel de notre identité, c'est l'essentiel de ce qui nous sommes. Maintenant, en tant que chrétien, l'essentiel, le cœur de qui nous sommes, c'est enfant de Dieu. Et ce statut-là, chrétien, enfant de Dieu, passe devant tout le reste. On peut être d'une certaine ethnie, on peut être d'une certaine, on peut être mère de famille ou célibataire, on peut être grand ou petit, on peut être telle profession. Mais lorsqu'on se décrit, lorsqu'on se voit et lorsqu'on voit les autres dans l'Église, l'identité de base, le cœur, c'est enfant de Dieu. Je suis chrétien et c'est ça qui force à créer une unité dans le peuple de Dieu qu'on ne trouve pas ailleurs. Et de savoir que la personne la plus importante de l'univers, c'est-à-dire Dieu lui-même, nous connaît par notre nom, nous appelle par notre nom, nous donne notre nom, ça, on peut faire face à tout dans la vie, puisqu'il nous connaît, il nous rend dignes.